et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers paroissiens, la fête de la Saint-Pierre et de la Saint-Paul revêt une importance particulière pour l'Église. Nous fêtons en quelque sorte aujourd'hui la fête de l'Église, ou l'anniversaire de sa fondation, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Nous fêtons la volonté du Christ d'établir son Église dans le monde jusqu'à la fin des temps. Nous en sommes les bénéficiaires et les enfants. C'est de la profession de foi de Pierre que le Christ va se servir pour bâtir son Église. Et aujourd'hui, le successeur de Pierre, c'est également sur cette profession de foi qu'il est le pape, c'est-à-dire qu'il est le successeur, le digne successeur de Pierre. Remarquez bien, de manière préliminaire, que le Seigneur a bien dit « je fonderai mon Église ». Vous pouvez bien prendre le grec, tous les manuscrits, le latin. Il n'y a pas de mystère, beaucoup l'ont fait avant nous. Le Seigneur a bien dit « je bâtirai mon Église ». Et cela a une importance folle. Le Seigneur n'a pas dit « je bâtirai une Église ». Modèle d'autres que vous pourrez bâtir vous-même plus tard. Ce que nos frères séparés dans la foi, les protestants, peuvent comprendre. Le Seigneur n'a pas dit « je bâtirai des églises », ce que la réunion de tous les croyants pourrait nous faire croire que ce sont d'autres églises, d'autres rassemblements, d'autres communautés de croyants. Le Seigneur a bien dit, et en quelque sorte c'est plus embêtant, mais c'est là que se trouve le salut. Le Seigneur a dit « je bâtirai mon Église ». Cette Église, qui est son corps mystique, évidemment, s'étend de la terre au ciel. Elle est composée de l'Église de la terre, nous, l'Église militante, de l'Église du ciel, le paradis, l'Église triomphante, et de l'Église qui attend encore sa sanctification au ciel, l'Église du purgatoire, l'Église souffrante. Redites-le à ceux qui ont oublié cette vérité fondamentale que l'Église n'est pas un rassemblement communautaire, politique, de gens qui sont d'accord le dimanche matin pour venir à la messe. L'Église, c'est la convocation mystique du Christ et tous ceux qui sont inscrits en lui pour l'éternité. Réouvrez le catéchisme de l'Église catholique. Vous le savez, pour nous, le Concile Vatican II, c'est le catéchisme de l'Église catholique, c'est le fruit. Et donc, c'est ce que nous devons lire tous les jours, évidemment. Et vous trouverez, effectivement, dans ce catéchisme, cette doctrine éternelle. Voyons simplement, je vais parcourir les notes de l'Église. Il y en a quatre, nous le disons à tous les credos. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Les deux premières notes viennent de la fondation de l'Église. Les deux dernières viennent de son extension. Voyons d'abord les notes de la fondation de l'Église. Unité et sainteté. Il n'y a qu'une Église, car il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu a voulu que son unité se reflète dans l'unité de son Église. Bien sûr, nous le savons, les séparations progressives, sans cesse renouvelées, de l'Église, sont une atteinte à ce corps mystique du Christ, sont le déchirement du manteau du Christ. Nous devons tout faire pour raccommoder le manteau du Christ. Nous devons toujours avoir souci de nos frères séparés dans la foi, dans l'Église, afin qu'ils soient unis. Cette union commence ici, à l'intérieur des murs, à l'intérieur de l'Église. Elle s'étend en commençant par ceux qui nous sont plus proches. Nous ne pouvons pas renoncer au retour de la fraternité Saint-Pie-X dans l'Église pleinement. Nous ne pouvons pas renoncer à l'union avec nos frères orthodoxes. Nous ne pouvons pas renoncer, même s'ils sont plus loin dans la foi, à l'union avec les chrétiens de toutes les communautés protestantes qu'elles soient. L'unité de la foi nous appelle sans cesse. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'une Église. Il nous faut la restaurer sans cesse. Il nous faut, par un mouvement spirituel intérieur, car ce combat-là non plus n'est pas politique. L'œcuménisme n'est pas une réunion d'ONG qui se mettraient d'accord. L'œcuménisme vrai est une union plus intense dans le Christ de notre propre sainteté. Et plus nous serons saints, et plus nous serons en mesure de répandre cette unité. Cette unité, elle est tenue par le pape, qui a charge de garder ensemble toutes ses brebis. C'est sa première charge, garder la foi et garder l'unité de l'Église. Vous le savez, elle est sans cesse en butte à la contradiction. Attention, mes bien chers frères, ne tombons pas dans le travers facile de retomber dans une église politique. Bien sûr que les papes se suivent et ne se ressemblent pas. Qui n'a pas vu que les options du Saint-Père François n'étaient pas exactement celles du Saint-Père Benoît XVI ? Eh bien, c'est pas grave. Vous avez le droit de préférer l'un ou l'autre. Vous avez le droit d'être attaché à Jean-Paul II, c'est celui de ma jeunesse. Vous avez le droit d'aimer Pie XII, vous avez le droit d'aimer Paul VI, vous avez le droit d'aimer tous les papes que vous voulez. Ça, c'est votre droit intérieur de préférer tel ou tel. Mais le pape est celui qui a charge de réunir l'Église aujourd'hui. C'est lui qui la convoque et la tient. Cette unité si précieuse qui doit passer par-dessus nos envies. Et ne tombez pas non plus dans une espèce de crétinerie papolatrique. Car il arrive, mais c'est souvent en dehors de l'Église, il faut bien le croire. Hein ? Souvent, c'est les gens à l'extérieur de l'Église, ou qui croient peu, ou qui croient pas, ou pour qui ça n'a pas une importance folle, qui sont persuadés que dès que le pape parle, alors c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, les catholiques ? Hein ? Le pape dit un mot, alors c'est vrai, c'est l'infaillibilité pontificale. C'est pas vrai ! La dernière fois que nous avons utilisé l'infaillibilité pontificale, mes bien chers frères, c'était Pie XII, pour proclamer l'Assomption de Marie au ciel, corps et âme. C'est pas tous les jours qu'on en fait usage. Peut-être, discutent les théologiens, que Jean-Paul II a utilisé la formule du dogme définitif dans son document où il parle du sacerdoce qui est destiné aux hommes. Parce qu'il a employé la formule, mais il ne l'a pas proclamée solennellement. Alors c'est en discussion. Voyez-vous, l'infaillibilité pontificale, c'est pas tous les jours. Mais il n'y a pas que l'infaillibilité. Ensuite, il y a les textes ordinaires du magistère de l'Église, que nous devons suivre, évidemment, que nous devons révérer avec l'intelligence de la foi. Et puis, il y a les déclarations diverses du Saint-Père. Si le Saint-Père sort sur son perron et dit « Aujourd'hui, je pense qu'il fera beau », cela ne ressort pas de l'infaillibilité pontificale. C'est l'avis de José María Bergoglio, qui pense qu'il va faire beau aujourd'hui. Voilà. Il nous faut remettre les choses en place, car l'unité est trop précieuse pour confondre. L'unité de l'Église, elle se diffracte dans trois catégories, la foi, et dans l'Église, celui qui a la foi de l'Église, dans les sacrements, et dans l'Église, celui qui célèbre les sacrements de l'Église, comme l'Église veut les célébrer, et dans l'Église, celui qui appartient à la communauté ecclésiale, hiérarchique, voulue par le Christ. Voilà pour cette note de l'unité, qui nous est si chère parce qu'elle est souvent battue en brèche et que nous devons livrer notre vie pour qu'elle soit vraiment, qu'elle existe toujours, cette fondation du Christ voulue comme une Église une. L'Église est sainte. Elle est sainte de la sainteté de son fondateur et de la sainteté de ses membres. Bien sûr qu'elle est sainte d'abord, essentiellement, substantiellement, ontologiquement, de la sainteté du Christ. Parce que l'Église, c'est le corps mystique du Christ, l'Église est sainte. Voilà tout simplement. Mais cette sainteté se communique, car le bien est diffusif de lui-même. Et nous en profitons. En étant intégrés dans le Christ par le baptême, nous profitons de la sainteté de notre fondateur, du Christ lui-même, de Dieu. Alors, il nous faut nous émerveiller de la sainteté des membres de l'Église. Il y en a beaucoup. Vous pouvez parcourir cette église, de nombreux saints nous rappellent, en tout cas leurs statues, nous rappellent, ou leurs images, ou leurs peintures, nous rappellent que notre église est jonchée de saints. Ne l'oublions pas, ils ont fondé sur terre, au cours des siècles, la parole transmise par le Christ, et ils lui ont fait produire du fruit, des fruits de charité, des fruits d'enseignement, des fruits de dons, des fruits sacramentels. Je vois en face de moi Saint Grégoire, il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Roch est devant vous. Là, se trouve Saint André, Saint Denis, Sainte Geneviève. Si vous faites le tour, vous trouverez Sainte Jeanne d'Arc, si chère à mon cœur. Vous trouverez Sainte Rita, vous trouverez tous les saints du ciel, Saint François Xavier. Je ne pourrais les citer, tous les saints, simplement, qui sont seulement représentés dans cette église, tant ils sont nombreux, le curé d'Ars en face de moi. Oui, notre église est pleine de saints, et ces saints ne nous ont pas simplement laissé quelques feuillets bollandistes de leur présence, ils nous ont laissé des preuves tangibles, ils ont fondé des lieux de foi, ils ont fondé des écoles, des orphelinats, des hôpitaux, ils se sont occupés des vieux, des veuves, des orphelins partout dans le monde, ils ont été la parole vivante du Christ mise en œuvre dans la charité. Ils sont nos prédécesseurs dans la foi qui nous livrent ce beau témoignage de la fidélité au Christ. Alors il y a bien sûr aussi la foule de ceux que vous ne connaîtrez jamais sur les autels, vous, je l'espère, mes bien chers frères, car chacun de vous doit avoir l'ambition, à la fin de sa vie, d'être canonisable, s'il le fallait, si l'Église en avait besoin, car une canonisation, c'est jamais que l'utilité pour ce monde de quelques exemples. Vous le savez, le pape Jean-Paul II avait voulu beaucoup canoniser pour donner de nombreux exemples. À lui tout seul, il a canonisé plus de 5 que tous ses prédécesseurs réunis, ce qui a augmenté sensiblement la taille du martyrologe romain. Eh bien, c'est votre ambition. Il faut qu'à la fin de votre vie, vous soyez canonisable. Ce n'est pas le plus important, c'est seulement si ça sert à l'Église. Mais à la fin de votre vie, il faut que nous puissions nous présenter devant Dieu, être sanctifiés complètement, c'est-à-dire être au paradis. C'est ça notre ambition dans la vie. Eh bien, nous sommes nombreux. Alors, cette longue litanie des saints que j'ai voulu n'est pas pour nous cacher nos défauts. Nous savons, hélas, et le monde nous le rappelle malheureusement parfois avec justesse, pas toujours avec justice, qu'il y a de nombreux pécheurs dans l'Église, et en commençant par moi. Alors, lorsque je suis moi-même pécheur, lorsque je manque gravement à mon devoir, eh bien, je manque à l'Église. Je quitte cette sainteté du corps mystique du Christ. Je me désagrège de mon état de chrétien jusqu'à ce que j'y sois réintroduit par la miséricorde et la réparation qui est due au péché. On parle beaucoup de la miséricorde, on a raison, on oublie que tout péché doit être réparé, mystiquement, matériellement. Voilà ce qu'il advient lorsque les chrétiens ne sont plus des chrétiens, ne sont plus un avec le Christ, leur fondateur, et perdent cette unité. Si vous venez à la messe tous les dimanches, c'est pour vous replonger aux sources de la vie, à cette Eucharistie qui vous donne de vous unir au Christ saint que vous allez recevoir tout à l'heure et qui vous donne la force de vivre de cette sainteté. Et si ce n'était pas suffisant, eh bien, si vous aviez péché, il vous faut vous confesser, il faut réparer. J'en profite pour dire que l'abbé Iborra est à votre gauche, là-bas, dans un confessionnal. De la parole à l'action dans l'Église, il ne doit pas y avoir un trop long pas. Voilà pour cette deuxième note de fondation de l'Église, la sainteté. J'en profite pour vous dire que parfois, quand on nous accuse d'être remplis de pécheurs, nous le savons bien, je fais mon examen de conscience tous les soirs, voilà, je sais qu'il y a des pécheurs dans l'Église, mais je vous rassure, si besoin était, n'être pas de l'Église n'empêche pas de pécher. C'est-à-dire qu'on n'a pas enfermé tous les pécheurs dans l'Église. Et les gens qui nous disent « Ah ben voilà, vous allez à la messe le dimanche, vous êtes chrétien, ben vous ne faites pas tout bien. » Oui, mais vous non plus. C'est pas parce qu'on ne va pas à la messe qu'on est un saint. Ça se saurait. En tout cas, nous nous donnons les moyens d'essayer, dimanche après dimanche, de découvrir cette sainteté et d'en vivre. Plus rapidement, je vais essayer les deux notes de l'extension de l'Église, sa catholicité et son apostolicité, que je dirais même romaine. Sa catholicité, elle recouvre deux choses. C'est pourquoi nous ne pouvons pas traduire par universel. Je sais bien que catholicos, grec, veut dire universel, mais dans l'Église, elle recouvre deux réalités que le mot universel ne traduirait pas. Donc il ne faut pas changer les mots de la profession de foi, comme certains s'y plaisent de temps en temps, en disant « je crois en l'Église une sainte universelle ». Voilà. Eh bien non, je crois en l'Église catholique, catholicos, car cela veut dire « selon le tout et partout ». C'est-à-dire « selon le tout de la foi ». Je ne peux pas être catholique si je choisis une partie de la foi. Forcément, dans la foi, il y a des trucs qui vous plaisent plus que d'autres. Des trucs, excusez-moi de cette vulgarité, mais hein, il y a des dogmes de foi, il y a des parties de la profession de foi qui vous plaisent plus. Que n'ai-je rencontré un jour quelqu'un qui me disait « Alors moi, je dis le credo, etc. » Mais pour être honnête, comme je ne crois pas tellement à la résurrection des corps, à ce moment-là, je ne le dis pas. Eh bien, tu n'es pas catholique, c'est tout. Ce n'est pas parce que c'est difficile à croire qu'il ne faut pas le croire. Justement, la foi est de s'attacher à une vérité qu'on n'a pas vérifiée soi-même. C'est le principe même de la foi, de la confiance, la confidence, de proclamer ce que l'Église proclame avec foi, donc avec confiance, pour arriver plus sûrement au ciel.
Nous ne pouvons pas être catholiques selon une partie de ce qui nous plaît. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas appelés à réaliser tous, de la même manière, l'enseignement de toutes les encycliques. Par exemple, puisque je vous vois ici, si l'encyclique qui concerne les religieux et les religieuses, eh bien, il y a peu de chances que ça vous concerne directement, sauf si d'aucuns étaient appelés à la vie religieuse, cette sainte voie. Voilà. Mais vous n'allez pas dans votre vie réaliser celle-là. Vous réaliserez, je vois des familles, ben, familiaris consortio, les laïcs dans le monde, la famille, etc., qui vous concernent au premier chef. Mais tous les documents de l'Église vous intéressent. Voilà cette catholicité selon le tout, et cette catholicité selon le fait qu'elle est répandue partout, car l'Église catholique est une partout où elle est. C'est extraordinaire, nous ne nous en rendons pas compte. Ou peut-être aussi, si vous voyagez, vous pouvez aller au bout du monde, au Japon par exemple, vous pouvez aller chez les Inuits, vous pouvez aller en Afrique du Sud, vous pouvez aller partout où vous voulez, vous êtes le même catholique partout. Vous êtes reçu chez les catholiques partout. Il me souvient d'une anecdote que je vous raconte. J'étais au Bangladesh il y a longtemps, j'étais séminariste, et il y avait une œuvre commune d'un hôpital avec l'église anglicane. Il y avait une femme, pasteur de cette église, qui était chirurgien obstétricien, et je l'avais invitée pour boire un café, ou je ne sais plus, un thé, évidemment, c'était une écossaise, un thé. Hein. Et elle s'interrogeait, et elle me disait, mais vous êtes missionnaire? Non, je ne suis pas missionnaire. Alors, vous êtes... mais qu'êtes-vous? Mais je suis séminariste, diocèse de Paris. Ah bon? Et alors, le diocèse de Paris a passé un contrat avec le diocèse de Rajshahi, au Bangladesh? Non, n'a pas passé de contrat. Alors, vous venez pour une mission particulière d'un don qui a été fait? Non, il n'y a pas de don. Mais pourquoi êtes-vous là? Mais parce que je suis catholique, et que je suis catholique partout. Ma carte de prêtre catholique, ça s'appelle un célébrette, est rédigée en latin et dans ma langue. Ce qui fait que je peux la montrer à n'importe quel prêtre de n'importe où dans le monde, même si nous ne parlons pas la même langue, eh bien il saura lire la partie latine de ma carte d'identité catholique, mon célébrette, et me dire, ben oui, monsieur l'abbé, vous pouvez évidemment célébrer la messe, confesser si vous connaissez la langue quand même des gens qui se confessent, vous pouvez recevoir les sacrements, vous pouvez donner, voilà, etc. Nous sommes partout les mêmes. Et nous sommes appelés à être partout, à nous répandre. C'est le travail de la mission sans cesse qui est nécessaire et rendu nécessaire par la catholicité de l'Église qui se répand partout. Enfin, la dernière note, l'apostolicité de l'Église et sa romanité, c'est qu'elle est à la fois envoyée dans le monde et constituée d'apôtres. Les deux sont inséparables. L'Église est envoyée, c'est pourquoi sans cesse, elle a souci de la mission à l'intérieur d'elle-même, mais aussi à l'extérieur. Nous ne pouvons pas délaisser le monde, nous sommes envoyés au monde. À chaque fois que vous dites que vous êtes de l'Église apostolique, eh bien cela signifie que dès que vous allez sortir, dès que la messe sera dite, vous allez porter cette bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas faire autrement. C'est notre constitution interne. C'est ça l'apostolicité de l'Église. Notre Église est envoyée, elle n'est pas destinée à se cacher. Nous ne sommes pas les adorateurs d'une vérité sacrée qui serait cachée au monde, réservée à des initiés, réservée à des petits cercles louches et douteux. Non, nos portes sont ouvertes et vous partirez dans le monde annoncer la bonne nouvelle telle que vous la recevez aujourd'hui. Vous avez compris de quel groupement je voulais parler. Il n'est pas possible d'être à la fois à l'intérieur de l'Église et à la fois membre d'un groupement secret initiatique. Vous ne pouvez être catholique, apostolique, envoyé dans le monde et franc-maçon. Oui, il vous appartient d'être ses apôtres. Comme ceux qui ont été fondés et que nous fondons aujourd'hui, le Seigneur doit trouver la même foi. Tu es le Fils du Dieu vivant, c'est toi le Messie. Sur cette foi qui est la nôtre et que nous allons proclamer dans un petit instant, le Seigneur va de nouveau fonder son Église. Elle est fondée sur les apôtres, les 12 du départ. Elle est fondée et remplacée très vite à première défaillance de Judas. Elle est fondée sur vous qui êtes les apôtres envoyés dans le monde, chacun selon le ministère qu'il a reçu.
Soyez fidèles et Dieu de nouveau fondera son Église. Ainsi soit-il.